les jardinières.
Soyez les bienvenus chez les jardinières, toujours fidèles au poste malgré le froid. Bonjour Raphaël.
Parce qu'il fait froid, bonjour Mylène.
Et bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
C'est vous, Tom le jardinier, qui allez répondre aux questions de nos auditeurs et nous parler également de l'entretien de nos plantes d'intérieur durant la saison froide. Tom, vous êtes l'auteur du site de conseil jardinage et potager www.tomlejardinier.com. On trouve sur ce site des vidéos et des articles.
Et forcément, on vous souhaite un bon réveil à tous. On est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, Tom, vous nous donnerez des bons conseils pour nous occuper de nos plantes d'intérieur. Mais avant ça, on va quand même mettre le bout du nez dehors. Y a-t-il des tâches à effectuer au potager ces temps ?
Eh bien, je suis un petit peu embêté pour vous répondre parce que j'allais vous dire « Oui, mais s'il neige pas, s'il gèle pas, il y a plein de choses que l'on peut faire. » Mais là, il neige plein de tubes. Le sol commence à geler. Alors, si ça se détend un peu, si c'est pas tellement gelé, on peut planter encore nos arbres fruitiers. On peut planter aussi les groseilliers et les cassissiers, tous les petits fruits à racines nues. On peut profiter de planter tout ça. Mais vraiment, il faut bien attendre qu'on n'ait pas de gel pendant 2-3 jours avant de faire cette opération.
Vous l'aurez donc compris, hein, Tom n'est pas homme à aller braver le froid et la neige. Merci beaucoup Tom d'être avec nous ce matin. Vous avez la possibilité, bien sûr, tout au long de cette émission, de poser vos questions à notre professionnel. Vous pouvez le faire par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
Et même si elle reste au chaud tout l'hiver, nos plantes d'intérieur ont besoin de soins durant la saison froide. On en parle dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous allons rester bien au chaud puisque nous allons prendre soin de nos plantes d'intérieur. Alors même si elles vivent toute l'année dedans, quelques conseils pour les entretenir durant l'hiver sont les bienvenus. Tom, pour commencer, une question qui peut paraître bête, mais est-ce qu'une plante d'intérieur s'arrose pareil en été ? En hiver.
Alors Mylène, déjà je m'inscris en faux. Nos plantes d'intérieur peuvent aller à l'extérieur en été. Il faut les habiter juste un petit peu progressivement au soleil au début du printemps.
Remettre de la crème aussi.
Pour éviter justement les coups de soleil, donc ce qu'on appelle faire durcir les plantes. Puis après, pour revenir à l'hiver, donc c'est une période aussi un peu de repos pour ces végétaux. Ils ont moins de lumière, donc ils vont moins grandir. Mais aussi, on a nos intérieurs qui sont plus secs, parce qu'il y a les chauffages qui chauffent plein tube. On va essayer d'éviter que l'humidité atmosphérique reste trop sec. Donc ma première astuce, mon conseil, c'est de surélever les plantes, mettre des billes d'argile dans leur soucoupe, et puis laisser toujours un petit peu d'eau stagnante là-dedans pour humidifier l'air. Et puis peut-être mettre aussi des humidificateurs à vos radiateurs.
Mais alors justement, Tom, vous parliez d'ensoleillement. On sait qu'en hiver, les journées sont clairement plus courtes et l'ensoleillement est fortement diminué. Est-ce qu'il faut justement déplacer ces plantes ? Et si oui, où les mettre pour que ce soit efficace ?
Alors là, il faut presque les coller aux fenêtres parce que vraiment, elles manquent de lumière. Je dis bien presque coller aux fenêtres parce que souvent, nos fenêtres, elles peuvent être bien bien froides, surtout si on a peut-être une véranda par exemple. Il peut y avoir peut-être même des fois un petit peu de givre dans nos vérandas. Donc ça peut faire noircir les feuillages. Et puis là, une astuce, c'est qu'on a tendance à voir nos plantes qui penchent d'un côté. C'est parce qu'on évite, on oublie de les tourner d'un quart de tour chaque semaine en faisant les arrosages par exemple. Et puis comme ça, le soleil va bien aller sur l'ensemble de la plante, sur toutes ses feuilles. Et on évite d'avoir des espèces de plantes un petit peu déformées par le manque de lumière sur certaines parties de la plante.
On va parler des températures également. Dans un appartement, en hiver, les températures aussi souvent entre 18 et 22 degrés. Et 22 degrés, je suis gentille. Hein. Des fois, c'est bien, bien plus
chaud. Vous êtes
chaud.
À 34, Mylène, vous.
Ah non, nous, on est plutôt à 19 à la maison. Comment vont réagir les plantes et comment vont-elles supporter justement ces chaleurs un peu inhabituelles ?
Alors, il faut voir deux choses, c'est que c'est des plantes tropicales, donc elles supportent ces chaleurs. Mais c'est généralement pas en concordance avec la lumière. Donc ça peut un peu poser des problèmes, donc elles risquent de s'étioler. Ça veut dire qu'elles vont pousser très grandement pour chercher la lumière. On risque aussi de voir un petit peu perdre leurs feuilles. Donc ce qui pose plus problème, c'est bien souvent ce manque de lumière et l'atmosphère sec. On peut voir quand notre atmosphère est trop sec, les parties des feuilles, certaines extrémités des feuilles devenir un peu jaunes. Donc ça, c'est souvent ça le problème, mais c'est peu souvent un manque de un atmosphère trop chaud.
Et puis, on parle de sources de chaleur, mais est-ce qu'il faut aussi éloigner ces plantes des radiateurs, voire même, quand on a un chauffage au sol, comment faire pour trouver le bon juste milieu?
Alors, le chauffage au sol et la chaleur, il n'y a pas tellement de conséquences. On évitera de les mettre juste tout à côté du radiateur, parce que ça pourrait faire dessécher trop rapidement le terreau. Donc, il faudrait bien adapter les arrosages, mais... comment dire ça, c'est pas un vrai problème. On évite aussi de les mettre peut-être trop près d'une cheminée qui peut les faire un petit peu brunir et sécher. Donc ça pose pas tellement de problèmes les sources de chaleur si on, justement, je le répète encore une fois, on a tendance à avoir nos atmosphères beaucoup trop secs.
Merci Tom. Suite de vos conseils pour l'entretien de nos plantes d'intérieur, ça sera dans quelques minutes. Nous parlerons de courant d'air, d'engrais et de maladies.
Les jardinières.
Tom le jardinier est avec nous ce matin et vous pouvez suivre ses actualités et ses conseils via son site www.tomlejardinier.com. Ce matin, nous parlons plantes d'intérieur. Il y a quelques minutes, nous parlions de sources de chaleur. Mais que faut-il faire des courants d'air? En hiver, on nous dit qu'il est bon d'aérer 10 minutes par jour les pièces de la maison. Alors, si nous avons des plantes, est-ce qu'il faut les déplacer à chaque fois?
Alors, il n'est pas que conseillé en hiver d'aérer, mais renouveler régulièrement l'air, c'est important même pour nos plantes d'intérieur, parce que souvent l'air peut être un petit peu chargé, etc. Donc c'est bien de renouveler l'air. Par contre, il y a des plantes d'intérieur qui craignent beaucoup plus les courants d'air. Je pense tout particulièrement en cette période, le poinsettia. Donc c'est ces étoiles de Noël qui font des fleurs bractées rouges,
avec
roses
des
et blanches. Celles qui sont généralement vendues avec plein de paillettes, voilà, elles détestent vraiment ça. Donc, s'il y a un courant d'air, on les voit presque perdre les feuilles presque immédiatement. Donc, quand on les achète aussi, petit conseil, puisqu'on les achète en cette période, demandez à votre fleuriste, à votre jardinier de bien bien l'emballer, parce que rien que le courant d'air entre la jardinerie et la voiture, ça peut leur être fatal. Donc, soyez vraiment précautionneux avec ce genre de plantes-là.
Mais alors, du coup, il y a un vrai parallèle entre la plante et l'humain, mon cher Tom, puisque on le sait, on est plus fragile, nous, humains, en hiver, avec entre autres la grippe. Il nous est souvent conseillé de prendre des vitamines. Est-ce que pour les plantes, c'est plus ou moins pareil? Est-ce qu'il faut leur donner plus d'engrais?
Alors, moi, pas tellement. J'avoue qu'en hiver, c'est pas une habitude que j'ai. Je prends plutôt l'habitude d'arroser mes plantes d'intérieur avec de l'engrais au moment où les jours recommencent à être plus longs, donc à partir de mars-avril, où c'est qu'il y a une vraie différence, on le voit presque à l'œil nu. Et en hiver, je profite de cette période pour leur donner un petit peu de repos. Comme il y a moins de lumière, moi j'essaye de les mettre aussi un petit peu plus au frais que d'habitude. Et puis ça peut, si on a des orchidées par exemple, leur provoquer une floraison après cette période de froid, ça crée un petit stress. Puis après, en les revenant au chaud, elles peuvent fleurir plus facilement juste après.
Et est-ce que les plantes, durant la saison froide, peuvent attraper des maladies?
Alors, maladies, oui et non. Souvent, on arrose un petit peu plus parce que notre atmosphère est sec. Il peut y avoir des algues qui vont pousser sur le terreau, qui peut aussi produire quelques problèmes inesthétiques, on dirait. Donc moi, je gratte avec une fourchette le terreau de mes plantes, puis comme ça, il y a plus de problèmes et je remets du nouveau terreau. Maladie, il peut y avoir un petit peu de la pourriture, parce que justement, si c'est un petit peu trop renfermé nos atmosphères, ça peut causer quelques problèmes de pourriture aussi. Mais il n'y a pas grande maladie, plus en hiver qu'en été, sur nos plantes.
Et puis on va faire un autre parallèle, mon cher Tom, puisque en été, il y a toutes sortes d'insectes qui passent dans nos maisons. Est-ce que durant l'hiver, il faut se méfier pour les plantes des prédateurs? Oui, non? Est-ce qu'il y a des prédateurs plus dangereux que d'autres?
Alors, il y a les traditionnels pucerons et les cochenilles, qui, si on écoute cette émission, je pense qu'on les connaît bien. Par contre, en hiver, il y a aussi des petites mouches qui vont dans le terreau de nos plantes, qui vont faire leurs œufs. On appelle ça les siarides. Elles adorent venir pondre leurs œufs dans les plantes quand le terreau est généralement assez constamment humide. Donc, pour éviter ce phénomène, ce que je conseille, c'est de reprendre une fourchette, gratter le premier centimètre de terreau. On va du coup enlever la terre qui contiendrait ses œufs. Et puis, on va remplacer ce premier centimètre par du sable. Et elles détestent le sable, donc elles ne viendront plus pondre dans nos plantes.
On va revenir, Tom, sur ces plantes qu'on achète à Noël et qu'on aime bien pour égayer nos intérieurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étoile de Noël. Il y a aussi la rose de Noël, appelée aussi hellebore. Alors, elle non plus, elle n'aime pas trop le chaud.
Alors, justement, c'est une plante qui n'apprécie pas le trop chaud de nos intérieurs. Elle sera par contre très décorative, par exemple dans une belle petite jardinière avec d'autres plantes, par exemple des pensées, des bruyères ou toutes ces plantes un peu automnales, hivernales. Plutôt à l'extérieur, on a tendance à les mettre à l'intérieur pour égayer nos intérieurs en cette période de fête. Ce que je conseille, c'est si on le fait, on les met peut-être pour le repas de Noël sur la table, mais on les ressort rapidement après. Elles apprécient vraiment pas, ça peut justement, elles, un peu les faire pourrir à la base, donc ça peut créer des problèmes.
Merci beaucoup, Tom. Donc, on n'a plus aucune excuse pour laisser dépérir nos plantes d'intérieur, ma chère Mylène. Il faut suivre simplement les recommandations de Tom.
La suite du programme, eh bien, ça sera avec la météo et l'inforoute. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs. On va peut-être rapidement déjà donner les numéros.
Oui, les rappeler en tout cas, parce que nos auditeurs les connaissent forcément déjà presque par cœur. Vous pouvez nous joindre par téléphone pour être en direct avec notre professionnel au 0901 70 20 20. Vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939. Et puis vous avez également le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émissions, questions jardinières et vous pouvez même y joindre une photo.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage en compagnie d'un professionnel de la branche. Nous répondons jusqu'à 8h à vos questions. Ce matin, nous sommes en compagnie de Tom le jardinier, l'auteur du site de jardinage et de cuisine www.tomlejardinier.com.
Et durant cette prochaine demi-heure encore, vous pouvez poser vos questions jardinage. Ça se passe par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire si vous êtes timide par SMS. Vous tapez jardin un espace suivi de votre question au 939 ou par le formulaire avec la possibilité d'y joindre une photo. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émissions, questions jardinières.
Et nous avons reçu une question de Yvan de Honan ou Honance.
Honance,
c'est dans le canton de Fribourg, hein, au bord du lac.
Alors c'est Honance.
Honance, voilà. Alors bonjour, je possède depuis l'an passé un jasmin que j'ai acheté en fin de floraison. Au printemps dernier, je l'ai rempoté et disposé dans le jardin. Il a eu un feuillage dense, cependant aucune fleur. C'est dommage, ça sent tellement bon. Que puis-je faire pour favoriser la floraison ? Actuellement, aucun bouton en vue et Yvan nous souhaite les meilleures salutations et de bonnes fêtes. On vous le souhaite déjà avant
et
de
Mylène,
répondre à la
je précise que c'est au nom du canton de Vaud, selon le numéro postal.
Oups, autant pour moi, mais toujours au bord du lac de Neuchâtel.
Exactement.
Alors, les jasmins, il y en a beaucoup. Il y a le jasmin d'Espagne, le jasmin officinal, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, ça peut être possible que son jasmin il a été un petit peu trop forcé. C'est-à-dire que quand on achète des plantes en jardinerie, pour qu'elles soient toutes jolies, toutes, qu'on a envie de vraiment les acheter, on les dope avec de l'engrais, on les remet dans les meilleures conditions. Et il se peut que ce jasmin-là, ça a été son cas, et du coup, qui ne va pas fleurir pendant une voire deux années. Pour revenir au jardin, pour savoir exactement lequel c'est, peut-être pour donner peut-être des conseils plus précis, par exemple, le jasmin d'Espagne, lui, va résister à moins 6, tandis que le jasmin officinal, le vrai jasmin, peut résister jusqu'à moins 15. Et tous ces jasmins font partie de la famille des oléacées, comme l'olivier et, plus surprenant aussi, le forsythia et le frêne.
Donc la seule solution pour Yvan, c'est d'être patient pour le moment.
Être patient et puis le bichonner le mieux possible pour qu'il perdure et puis qu'il va justement faire ses floraisons-là.
Merci beaucoup Tom pour toutes ces précisions. Je vous propose d'enchaîner avec cette nouvelle question. Bonjour, je fais du tri dans mes semences et sur certains paquets, il y a des dates de péremption. Certaines sont passées de date du printemps passé. Puis-je quand même semer ces graines au printemps prochain et espérer voir quelque chose pousser ?
Alors, Ma réponse, elle est un petit peu technique. Certaines graines, on met ce taux de germination, ce date de péremption, c'est pour dire qu'il y a un taux de germination qui est suffisant pour qu'on dise « Ah ben, c'est pas de la mauvaise qualité les graines ». Donc, ce qu'il peut, s'il les sème tout de même, il peut y avoir un petit peu moins de variétés ou moins de graines qui vont germer. Ce qu'il peut faire pour être sûr qu'elles vont bien germer, c'est prendre du papier essuie-tout, mettre de l'eau dessus, et puis se met par exemple 10 graines dessus, et puis sur ces 10 graines, il verra combien vont germer ou pas. Et comme ça, on arrive à avoir une vraie idée de ce qui va se passer au jardin.
Est-ce que par exemple, je prends un exemple comme ça, il a des courgettes, on essaye de les faire germer, elles germent. Est-ce que c'est possible qu'après, ces courgettes, elles soient moins jolies que des courgettes qui ne sont pas passées, des graines qui ne sont pas passées de date? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, il n'y aura pas un aspect, sur l'aspect esthétique et sur l'aspect production, ça ne va rien changer. Une plante qui germe et qui pousse, il n'y a pas une histoire de qualité de la plante au final. C'est surtout une histoire de germination. Par contre, le stockage aussi est presque plus important que la date de germination. Il faudrait presque stocker nos graines au frigo, au frais et au sec. C'est là qu'elles sont le mieux, plus que si elles seraient par exemple dans l'humidité, elles risqueraient presque de pré-germer des fois dans les sachets. Donc le lieu de conservation est souvent plus important que la date sur les sachets. Et une petite dernière chose, un truc tout bête, c'est que il faudrait pas jeter si c'est des plantes de collection. Même si le sachet, il y a 50 graines dedans, puis il y en a 4 qui germent, ben c'est tout de même 4 plantes de collection qui vont germer. Et puis, on peut faire perdurer une variété. Voilà, ça serait dommage de jeter ces graines si c'est des graines de collection.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Tom le jardinier pour répondre à vos questions jardinage. Il y a quelques instants, on a parlé de graines et de semences. Et puis, Tom, vous avez utilisé un terme qui a titillé nos oreilles. Vous avez parlé de graines de collection qu'il fallait précieusement garder. Alors peut-être nous expliquer en quelques mots, c'est quoi ces graines de collection ?
Ben, c'est tout simplement des graines qu'on m'a transmises, qu'on s'échange entre jardiniers passionnés, qu'on trouve des fois plus dans les catalogues de semenciers, qui sont, je ne vais pas dire rares, mais presque quand même. Donc moi, je les conserve, j'essaie de les multiplier. Puis des fois, ben, j'ai sur 500 graines que j'ai semées, j'en ai que 10 ou 15 qui germent. Mais ça ferait presque l'objet d'une émission complète, tellement il y a de choses à dire sur les semences, sur les graines.
On note.
Est-ce que vous avez quand même quelques exemples de graines de collection?
Alors, j'ai beaucoup dans les variétés de tomates. J'ai quelques tomates très anciennes et locales de quelques coins un peu perdus en France, qui sont des tomates qui se conservent à sécher, par exemple, ce genre de choses-là.
Merci beaucoup Tom, avant d'enchaîner avec une nouvelle question, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre et poser votre question à Tom en direct par téléphone au 0901 70 20 20 et qu'on attend également vos SMS, vous tapez jardin un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939, vous pouvez également le faire par le formulaire qui est disponible sur notre site sous l'onglet émission, question ou jardinière.
Nous avons un petit étang depuis cet été, c'est donc nouveau pour nous. Est-ce qu'il faut laisser la glace se former avec le froid ou la fendre? Merci.
Alors, il y a plusieurs écoles sur les glaces, enfin sur la glace sur les étangs. Souvent, si l'étang il est bâche, si c'est une bâche qui forme l'étang, je conseille de casser cette pellicule de glace. Par contre, au contraire, s'il y a des poissons dans l'étang, cette couche de glace, elle peut permettre d'être un isolant, donc le froid n'attaquerait pas l'eau qui est en dessous et peut sauver les poissons qui seraient dedans. Pour une autre technique, c'est peut-être mettre des vieux pneus sur son étang et du coup, avec les courants d'air, ça fait un petit peu ils basculent comme ça, ils font des allers-retours et ça empêche la glace de se former.
Vous avez dit briser la glace. Est-ce qu'il faut y aller franco avec un râteau ou justement plus doucement pour pas détruire l'écosystème qui se trouve dans cet étang et qui dort en ce moment?
Alors si c'est pour une, il faut aussi se dire que de la nature, il faut essayer de respecter la nature. S'il y a cette glace, elle n'est pas pour rien. Donc si c'est pour être un écosystème, moi je conseillerais de pas forcément la la casser. Mais par exemple, moi, j'irai avec un pic à glace des fois et puis j'irai assez franco.
Merci beaucoup Tom et j'en profite pour rebondir puisque vous parlez de briser la glace. Pour briser la glace, il faut des outils de jardin et on a cet auditeur qui nous demande, nous rangeons nos outils de jardin à la cave, mais cette dernière est en terre et un peu humide. Est-ce mauvais pour nos outils? Vont-ils rouiller? C'est votre conseil pratique, Tom.
Alors là, moi, je conseillerais pas forcément la cave parce que justement, c'est un peu humide. Les fers n'apprécieraient pas, mais surtout les manches, on peut le voir, ils pourraient se déformer si c'est trop humide. Par contre, bah, conseil de rangement pour nos outils pendant qu'on est en hiver, on a un petit peu de temps pour bricoler. On va poncer les manches, comme ça, il y a moins d'échardes au printemps pour nos mains. Elles nous le remercieront grandement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les suspendre à l'envers, bien les nettoyer. Là encore, une autre petite astuce, c'est un seau avec du sable. Chaque fois qu'on va au jardin, on les enfonce dedans et du coup, en les ressortant, ils sont tout propres. Là, on y va un petit peu plus franco. Par exemple, si on a la bêche, on va la limer ou même avec une pierre pour aiguiser, on va l'aiguiser comme ça, on fera moins d'efforts quand on retournera le jardin au printemps.
7h, 8h, les jardinières.
7h52 chez les jardinières. On va parler orchidées. Tiens, Tom, c'est toujours un sujet
d'actualité.
D'actualité, oui. Nous avons des orchidées et nous aimerions savoir à quelle température doit avoir l'eau lors de l'arrosage. Est-ce que ça a une importance, cette température?
Eh bien oui, si l'eau elle est trop froide, ça peut créer des chocs thermiques à nos plantes. Donc, il ne faudrait pas trop les choquer. Donc, la meilleure eau pour toutes nos plantes d'intérieur, c'est évidemment pas l'eau du robinet, mais si possible, récupérer de l'eau de pluie. On évite d'avoir le calcaire et la stocker à température ambiante de la pièce. Et du coup, on a les meilleures conditions pour les arroser.
Avec la période hivernale, il y a beaucoup de neige. Est-ce qu'on peut faire fondre la neige pour arroser les plantes? Bonne ou mauvaise idée?
Alors, plutôt bonne idée. Par contre, il faut faire attention parce qu'on peut saler les routes, on peut saler les bords de route. Donc, éviter d'avoir cette neige qui fondrait avec du sel dedans. Il n'y a rien de pire pour les plantes, je crois.
Ça serait un peu fatal hein, quand même. Tom, on va enchaîner, je crois, sur une question. Raphaël, sur le compost.
Exactement. Notre compost à l'extérieur, gèle sur le dessus. On continue de mettre nos restes alimentaires. Est-ce qu'on doit mélanger le tout de temps à autre?
Alors, moi, le compost, je le retourne 2 fois maximum par année. Il n'y a pas besoin de le mélanger plus. Par contre, je fais 3 bacs, donc un bac où c'est que je vais mettre mes détritus de tous les jours, mais j'essaye de mélanger ce que j'appelle les déchets verts et les déchets bruns. Donc déchets verts, c'est tous les déchets de cuisine. Bruns, on a les feuilles mortes, etc. pour avoir un compost bien équilibré. Je le retourne une fois dans la saison et au milieu de l'été, je vais le transvaser dans le bac 2. Et du coup, en faisant ça, on va le mélanger du coup et jusqu'à et après la troisième année, je le mets dans le bac 3 et c'est là où c'est que je peux l'utiliser. Comme ça, c'est très expansif, hein, donc on prend beaucoup de temps pour faire un compost comparé à nos compostières où c'est qu'en 3 mois on peut avoir du compost prêt, mais là il est bien équilibré et puis il ira directement au jardin.
Merci Tom. Ce matin, nous avons appris à entretenir nos plantes d'intérieur en hiver et nous avons aussi parlé de jasmin, d'orchidées, d'étangs, de compost. Tom, avant de se quitter, dites-nous, que fait le jardinier au mois de décembre?
Eh bien, le jardinier au mois de décembre, il fait des cadeaux de Noël, par exemple. Non, plus sérieusement, il lit beaucoup de livres. C'est une bonne période pour faire aussi les plans de son jardin pour l'année prochaine. On reçoit aussi tous les catalogues de semenciers. On parlait de graines tout à l'heure. Où c'est qu'on... Les premiers servis sont les mieux servis parce que les graines, ce n'est pas comme une usine. On ne fabrique pas des graines. Donc, elles sont produites une année à l'avance. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il faudra attendre peut-être une année de plus pour en avoir. Donc, on fait le plan des rotations de culture. C'est donc cette petite danse où on évite de mettre... nos légumes 2 années de suite à la même place, jusqu'à 5 ans, ce serait l'idéal pour certaines maladies et du coup on s'en prémunit et voilà.
Tom, j'en profite, je rebondis, vous parlez lecture, est-ce que vous avez vous un livre à nous conseiller en cette période, justement avant les fêtes, peut-être à offrir à des amateurs de jardinage?
Alors, il y a aux éditions Rustica, il y a les ABC du jardinier. Puis si on est un petit peu patient, au mois de mars, il y aura peut-être mon livre.
Et on se réjouit déjà. Sinon, bien sûr, allez sur le site de Tom le jardinier.
Exactement, tomlejardinier.com. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été en notre compagnie ce matin. On rappelle qu'il est possible de vous suivre et de suivre tous vos conseils jardinage via les réseaux sociaux, mais également sur votre site très complet. Je rappelle encore une fois l'adresse tomlejardinier.com. On vous souhaite un très bon week-end et des très belles fêtes de fin d'année, Tom.
Mais merci à vous aussi, et j'en profite pour l'en souhaiter à tous nos auditeurs, puisque c'est la dernière fois qu'on s'entend cette année.
Merci. La semaine prochaine, c'est la DER de 2020. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Et n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions. Faites-le en tout temps, soit via le SMS, soit via le formulaire. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, Raphaël.
Bon week-end, Mylène.
Et surtout, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.